Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. C'est le 90e numéro de cette émission où nous allons encore vous proposer un programme très varié puisque toutes les formes musicales vont peu ou prou y être représentées. Ces temps-ci, l'actualité est particulièrement dense à tel point qu'on a parfois du mal à la suivre. Nous allons tout de même essayer de vous en rendre compte le plus exhaustivement possible avec ceux que j'ai convoqués aujourd'hui dans le grand studio de Radio Présence. Tout d'abord, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Elle est accompagnée par Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et par son complice Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse. Il est chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Avec eux, j'ai le plaisir de vous signaler le retour de Serge Krzyzewski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'orchestre En Harmonie, président du Festival Musique au Palais, ça c'est tout récent, et vice-président des Clés de Saint-Pierre, les Clés de Saint-Pierre dont la 20e saison commence lundi prochain avec un concert-lecture que nous vous présenterons longuement en seconde partie d'émission. Pour l'instant, place à l'actualité musicale récente avec Anne-Marie, Robert et les deux Serges.
Mélomanie, retour arrière.
Nous avons consacré une large place lors du précédent numéro de Mélomanie à la production de Norma au Théâtre du Capitole. Et ceux qui l'ont écouté se souviennent certainement de l'enthousiasme que Robert Pénavert avait manifesté pour la prestation de Clara Kolonits dans le rôle titre. Il se trouve que la soprano hongroise a donné aussi un récital la semaine dernière. Robert y a assisté et il tenait évidemment à nous faire part de ses impressions. C'est donc bien volontiers que je vais lui tendre le micro pour ce faire. Est-ce que Clara Kolonits a été aussi éblouissant dans cet exercice que dans le rôle de Norma?
Oui, et puis je serais tenté de dire que si c'est pas du luxe, on n'en est pas loin, parce que en fait, vous savez, ce récital se situe dans le cycle des récitals des midis du Capitole, et c'est accessible au plus grand nombre parce que la place est à 5 euros. Et cette fois-ci, Christophe Grissi nous présente la star de la troupe de l'opéra d'État hongrois de Budapest qui a chanté deux représentations de la Norma, et de quelle manière, je ne vais pas revenir dessus. Encore une fois, je le dis, si ce n'est pas du luxe, nous n'en sommes pas loin. Alors, dire également que ce récital était accompagné par Robert Gonella, qui est quand même spécialiste de ce genre d'exercice, et il a accompagné des répertoires très différents, mais toujours avec la même souplesse stylistique, la même attention au chanteur. Enfin voilà, c'est vraiment un accompagnateur, un musicien génial que l'État du Capitole a dans ses murs, et d'ailleurs tous les chanteurs qui viennent nous le disent. Alors, pour en revenir à ce récital, donc, programme, Liszt, Donizetti, Meyerbeer et Ferenc Erkel. Pardon pour la prononciation, ce monsieur est hongrois. C'est un compositeur de l'époque romantique. Il a vécu au 19e siècle, 1810 à 1893. Il est entre autres choses, alors je l'ai découvert en travaillant pour cette émission, c'est lui qui est le compositeur de l'hymne national hongrois. Voilà, c'est comme ça. C'est
que je n'ai pas du tout en tête. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous là, qui ont
si,
en tête.
Si, je pourrais vous le chanter, mais là, on n'a peut-être
non,
pas trop
le temps. Non.
Mais voilà. Et donc, il y avait une œuvre de ce compositeur à ce répertoire, ce compositeur qui a écrit énormément pour toutes sortes de formations. Il a écrit, c'est-à-dire chambriste ou symphonique, mais également il a écrit 10 opéras. Voilà. Donc, pour débuter ce cycle, Clara Kolonits avait choisi Franz Liszt, et donc la Loroy Lyle, enfin, etc., les trois sonnets à Pétrarque, en fait, c'est le répertoire très classique de la mélodique de Francis. Elle a fait évidemment, je vais vous dire avec quel style. Alors, la voix de Clara Kolonits, en fait, dans la feuille qui est distribuée, elle est classée comme dramatique coloraturement. Je ne suis pas tout à fait de cet avis, je pense qu'Anne-Marie également n'est pas de cet avis. Je pense que c'est une grande lyrique colorature. Dramatique, non. Dramatique, ça suppose que la voix a davantage d'assises dans le bas médium et le grave en termes de projection. Alors, ce sont des registres qu'elle manipule avec aisance aussi, mais dans lesquels la projection est quand même sensiblement différente en termes de puissance que par rapport au médium et à l'aigu et au suraigu. Donc, cette réserve mise à part, c'est Franz Liszt était évidemment délicieux, stylistiquement, admirablement chanté. Et puis ensuite, donc, j'ai découvert ce compositeur hongrois dans l'un de ses opéras les plus connus. Alors, elle a chanté en hongrois, évidemment, mais la traduction, c'est « Ciel, je frémis ». Ça veut dire que c'est un air éminemment dramatique et émouvant. Alors là, de suite, on sent que quand même le hongrois et sa langue natale, on sent quand même une complicité entre le mot, entre la parole, entre le son du chant et le son musical qui ne trompe pas. Voilà. Par la suite, c'était Donizetti et l'air de Linda, évidemment, de Linda de Chamounix, avec évidemment une cabalette, avec des reprises ornées, mais comme elle avait fait d'ailleurs pour Norma, absolument somptueuse, ses reprises, donc avec aucune contrainte dans le suraigu, contre ré, contre mi. Mais ça sort, mais en même temps, ce n'est pas des petits sons assis, de serrés ou je ne sais trop quoi. Ça sort naturellement dans le développement de la voix, dans la rondeur de l'émission, et c'est ça qui est extraordinaire. Et ensuite, l'un de ses rôles fétiches de signature, l'air de Marguerite de Valois, des Huguenots, de Meyerbeer. Alors, il semblerait qu'il faille être un peu plus circonspect en termes de français plutôt qu'en termes de hongrois, mais ça, en même temps,
oui, on pourrait s'y attendre.
On peut le comprendre, oui. Voilà. Il n'empêche que, encore une fois, c'est air au beau pays de la Touraine, bien sûr. Elle a chanté avec un style également. Je le dis, je le répète, c'est l'un de ses rôles signature. Elle chante très souvent ça à Budapest, hein, puisqu'à Budapest, on joue les Huguenots. Alors évidemment, triomphe à la fin, et elle est revenue pour nous proposer un autre air de Ferenc Erkel, qui est un air extrait de Bang Ban, qui est l'un de ses opéras. C'est l'air de Melinda. On a l'impression que c'est un air très nostalgique. Alors du coup, je pense qu'il devait y avoir un autre bis de prévu, mais cet air a un peu refroidi l'atmosphère. C'était 1h25. Bon, on n'a pas eu droit à un autre bis. Mais enfin, encore une fois, après la Norma, ça a été une rencontre merveilleuse avec cette cantatrice. Et je dois dire que 5 € la place, c'est un luxe inouï.
Bon, votre enthousiasme étant contagieux, on va se faire le plaisir d'écouter Clara Kolonitz. Et pour illustrer tout ce que vous venez de dire, je vous propose que ce soit dans l'interprétation d'une des œuvres qu'elle a chantées lors de son récital au Théâtre du Capitole la semaine dernière, « Oh, quand je dors » de Franz Liszt.
Oh, quand je dors.
Au quand je dors de Franz Liszt, chantée par Clara Kolonitz, une des pièces qu'elle avait mises au programme du récital qu'elle a donné la semaine dernière au Théâtre du Capitole, accompagnée au piano par Robert Gonella. On espère bien sûr revoir rapidement à Toulouse cette belle chanteuse venue de Hongrie comme Franz Liszt jadis. Changement de décor et d'ambiance maintenant avec le premier concert de la saison de Toulouse Guitare, organisé, je le rappelle, par Thibaut Garcia et ses parents Jules et Gaël. Il a eu lieu vendredi à la chapelle des Carmélites et la vedette de cette soirée était un géant du luth, du théorbe et de la guitare baroque, le Norvégien Rolf Lislevand. Et quand je dis géant, c'est autant par la taille que par le talent, parce qu'il doit avoisiner le double maître, ce musicien venu du Nord. Nous avons assisté à son concert tous les deux, Serge Chosy, mais avant cela, comme le veut la formule de Toulouse Guitare, il a été précédé sur scène par une jeune guitariste. Qui était cette musicienne et quel programme nous a-t-elle proposé, Serge ?
Oui, alors c'est une récente tradition de Toulouse Guitare qui date de la première année et que je trouve formidable. C'est une excellente idée de faire préluder au concert de la vedette, en quelque sorte, un jeune ou une jeune étudiante, donc en matière de guitare. Et là, il s'agissait d'une jeune guitariste, donc Alicia Stubb, qui est en fait originaire de Corse et qui est titulaire de prix, de plusieurs prix, et donc qui est venue avec sa guitare, moderne donc, évidemment, jouer trois morceaux, mais tout à fait originaux et très bien faits, très bien mis en situation, avec un rondo de Dionisio Aguado, donc une pièce très, très colorée, très belle. Une autre, alors, du célébrissime Joaquín Rodrigo, qui n'a pas écrit que le concerto d'Aranjuez, et donc c'était Junto al Generalife, bon, une pièce très courte. Et puis, une pièce originale d'un compositeur russe contemporain, qui s'appelle Nikita Koshkin, que j'ai découvert ce soir-là, Usher Waltz, c'est-à-dire valse Usher. Alors, c'est d'après le fameux conte d'Edgar Poe, La chute de la maison Usher, on dit en français.
Ouais, bon. Usher.
Usher, quand même. Restons écossais.
Les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Poe, c'est une des plus connues, une des plus célèbres.
Oui, absolument. Oui. Et donc, vraiment, elle a témoigné d'abord d'une belle virtuosité.
Oui, parce qu'il fallait.
Mais d'un jeu sensible, d'un jeu musical avec des nuances. Donc, c'était vraiment une très belle introduction de tout le concert que d'entendre cette jeune guitariste qui est sûrement promue à un bel avenir.
Je crois aussi, alors elle était un peu crispée au début, mais quand elle s'est libérée, c'était très très bien, c'était vraiment très bien. Alors elle est corse comme vous l'avez dit, mais alors elle a étudié au conservatoire à rayonnement régional de Montpellier et elle continue de se perfectionner à Toulouse, à l'ISDAT. Et elle doit suivre, je crois, des études de musicologie aussi à l'université Jean Jaurès. Raison pour laquelle, sans doute, on l'a eu en première partie à la chapelle des Carmélites de Toulouse vendredi dernier. Donc Rolf Lislevand a pris la suite. On a vu son immense stature s'avancer vers la scène avec rien moins que trois instruments sous le bras. Voilà. Mais il peut se le permettre parce qu'il est costaud.
Oui.
Et comme vous connaissez bien ce musicien, Serge, pour l'avoir entendu jouer avec les Sacs-Boutiers, je vais vous laisser nous dire quels étaient ces instruments avant de nous présenter le programme donné samedi par Rolf Lislevand à la chapelle des Carmélites.
Voilà, alors il a commencé par jouer de la guitare baroque. Une petite guitare, qui est plus petite que les guitares actuelles, et donc qui a un son très aigu, très, très fin, très beau, très percutant. Et ensuite, il est passé à l'opposé, c'est-à-dire au théorbe, qui lui favorise en quelque sorte les sons graves. Et enfin, il a joué de l'archiluth, qui est un instrument qui essaie de combiner un peu les deux, comme il l'a expliqué, avec beaucoup de finesse et d'intelligence.
Oui, parce qu'il parle très bien français.
Il parle parfaitement le français. Et les quelques mots qu'il a dit, vraiment, ont remis en situation tout ce qu'il a joué et les trois instruments dont il a joué. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé sa prestation complètement magique. Parce qu'il y avait une finesse, une musicalité, une intelligence. Dans un programme qui favorise un peu la musique espagnole, c'est bien étonnant avec la guitare baroque, Et donc, j'ai noté notamment qu'avec cette guitare dont on pensait qu'elle ne peut pas faire trop de nuances parce qu'elle est quand même limitée en ambitus, eh bien, il fait des décrescendo incroyables, il va jusqu'aux confins du silence avec une touche, un jeu tout à fait admirable. Alors, là, il a joué notamment du Gaspar Sanz, qui est le grand compositeur de la Renaissance espagnole. Et puis, il a joué du Piccinini, du Kapsberger, qui est un compositeur qu'il aime beaucoup, un compositeur dont il a pris le nom pour fonder un ensemble qu'il dirige depuis, l'ensemble Kapsberger. Donc, vraiment, très beau, de très belles, j'allais dire, improvisations. Parce que toute la musique baroque ou de la Renaissance qu'il a jouée, c'est une musique qui était faite pour être ornée. Ornée au talent près de l'interprète, évidemment. C'était à l'interprète, à orner, comme on le fait plus tard dans le bel canto pour les reprises de Cabanette, par exemple, dont parlait Robert tout à l'heure. Eh ben, c'est la même chose, et ce qu'il fait avec un art et une musicalité complètement incroyable. Notamment la dernière séquence des pièces qu'il a jouées, avec du Gaspar Sanz encore, Micar Bonci et Santiago de Murcia, avec des pièces typiques qui s'appellent les Canarios ou les Jacaras, ou les tarantellas. Bon, tarantelles, on sait d'où ça vient.
Oui, là, c'est assez transparent.
Oui. Oui, voilà. Et donc, vraiment, avec une variété de toucher, une imagination dans son jeu que moi, j'ai adoré, hein, vraiment.
Et puis lui, on sent qu'il était très content d'être là, parce que je crois qu'il y a longtemps qu'il voulait jouer à la Chapelle des Carmélites.
Exactement, il adore ce lieu dans lequel il n'avait jamais joué, et il était ravi de jouer dans ce lieu tout à fait adapté aux instruments qu'il pratique.
Et à ce répertoire aussi.
Et à ce répertoire.
La chapelle date du XVIIe siècle, même première moitié du XVIIe, donc
c'est parfait.
Parfait pour cette musique.
Ah oui, non, c'était vraiment un vrai régal, il a eu un très gros succès, évidemment. Et il est revenu pour jouer des bis. Et alors, le premier bis, c'était amusant. Il ne l'a pas annoncé. Il a dit, vous le reconnaîtrez peut-être. Et alors, il a fait un peu l'inverse de ce que font les guitaristes modernes qui jouent des œuvres baroques. Ben là, avec son instrument baroque, il a joué la musique de Cinéma Paradiso.
Et oui, on était quelques-uns à avoir reconnu, oui, ça me dit quelque chose, moi j'ai tiens une musique de film et je n'avais pas mis un nom dessus.
Eh oui, des Morricone, Morricone, à la fois Ennio et Andrea d'ailleurs. Et puis il a quand même joué une deuxième pièce où il est remonté là vers le XVIIe siècle pour jouer une pièce qui est relative à tout à fait ses instruments. Donc vraiment magnifique, une très belle soirée avec donc un seul musicien mais trois instruments, ce qui est quand même assez inhabituel.
La guitare baroque entre ses mains avait l'air d'un jouet.
Complètement, oui, c'est vrai.
Donc Rolf Lislevand a joué de très nombreuses pièces vendredi dernier à la Chapelle des Carmélites, comme vous l'indiquez Serge, il n'y a donc que l'embarras du choix. Pour vous faire écouter l'une d'entre elles, eh bien par exemple, voici une arpeggiata de Hieronymus Kapsberger. Arpeggiata de Hieronymus Kapsberger, interprété par Rolf Lislevand. Serge, est-ce que vous avez reconnu l'instrument avec lequel il a joué cette pièce ?
J'avoue que je ne veux pas m'avancer.
C'est le théorbe.
Le théorbe, oui.
Bon, rassurez-vous, personne n'aurait trouvé, je pense, parmi nous. Voilà le théorbe, mais aussi l'archilute et la guitare baroque de Rolf Lislevand pour lancer idéalement cette deuxième saison de Toulouse Guitare. Le prochain rendez-vous est un ciné-concert qui aura lieu le 13 décembre à 20h, salle du Sénéchal, avec la projection de L'Inconnu, le très beau film de Todd Browning, accompagné par les frères Méduse et la violoniste Jennifer Choi. Après la guitare, l'orgue, puisque comme vous le savez, nous sommes en pleine 24e édition de Toulouse les Orgues, Strasbourg. Le festival se termine d'ailleurs ce dimanche 13 octobre. Samedi dernier, à Saint-Pierre-des-Chartreux, Yasuko Bouvard, la titulaire du superbe orgue baroque français de l'église, donnait un récital lors de cette journée tout entière consacrée à la gloire des femmes organistes et compositrices. J'ai dit récital, mais c'était plus qu'un récital, parce que Yasuko Bouvard, musicienne aussi discrète dans la vie qu'elle est talentueuse au clavier, avait choisi de partager la vedette avec quelques-uns de ses amis toulousains. Serge, nous avons le privilège d'assister à ce concert. Quels étaient les autres musiciens conviés à la fête par Yasuko Bouvard?
Oui, alors conviés à la carte blanche. C'était une carte blanche à Yasuko Bouvard, donc elle avait le droit d'inviter qui elle voulait.
De jouer ce qu'elle voulait et d'inviter qui elle voulait.
Absolument. Et donc elle a invité un chanteur, Roland Dasmouleika, qui est donc le directeur de l'ensemble Antiphona, et qui, tout au long du concert, lançait en quelque sorte, avec des chants grégoriens ou du plein chant, les thèmes qui étaient ensuite variés par les différents musiciens qu'elle a joués. Alors il y avait d'abord lui, donc, puis ensuite il y avait, mais ça c'est pas vraiment étonnant, Michel Bouvard, et donc ils ont joué à quatre mains, notamment la première pièce de Nicholas Carlston, qui date du XVIIe siècle, et puis une autre pièce de l'anglais Thomas Tomkins. Et puis ensuite, elle a fait intervenir deux des musiciens des Sacoboutiers, évidemment, puisqu'elle est l'organiste des Sacoboutiers.
Attitrée,
c'est elle qui fait le continuo hein, des différentes prestations de l'ensemble. Et donc, il y avait non seulement Jean-Pierre Cagnac, qui jouait donc du cornet à bouquin, mais il y avait également Laurent Le Chenadec, qui jouait du basson. Et donc, chacun a eu droit à une pièce accompagnée par l'orgue. Alors, pour Laurent Le Chenadec, c'était une pièce de Baudecœur, qui datait alors vraiment du 17e, plein 17e. Et Jean-Pierre Cagnac a joué alors une pièce qu'il joue assez souvent, qui est une pièce tout à fait émouvante, de Bovicelli, et qui est une diminution sur un madrigal de Palestrina, qui s'appelle Io son ferito lasso, donc sur une blessure. Hein. Et c'est vraiment une pièce extrêmement émouvante, très lente, très recueillie, très belle. Ensuite, elle a joué du Scheidt, évidemment, Samuel Scheidt, qui est un compositeur allemand, mais très inspiré par la Renaissance italienne, hein, qui est allé à Venise et qui a vraiment travaillé avec les grands Italiens de son temps. Puis on a eu droit à une fugue de Louis Couperin, il y avait donc une pièce française.
Et ça, c'était l'oncle de l'autre.
Qui est l'oncle, voilà.
L'oncle de François.
Oui, oui, c'est toute une dynastie,
oui, Couperin. C'est les deux plus connus de la famille.
Voilà. Mais il y en a d'autres. Hein. Oui. Et ça s'est achevé sur un hymne, Ave Maristella, de Titelouze. C'était vraiment un final flamboyant, hein, qui était joué, alors, dans lequel elle a fait appel à tous les jeux possibles de ce magnifique orgue. Il faut le redire.
Oui, c'est ce que
c'est
je voulais
un orgue extraordinaire, un orgue français, mais d'une transparence, d'une luminosité tout à fait incroyable dans cette église de Saint-Pierre-des-Chartreux, si étrange, avec deux secteurs dans l'église, deux nefs en quelque
elle
sorte.
Elle a une histoire, cette église. C'est pour
oui,
ça qu'elle est configurée de cette façon.
Voilà,
parce
oui,
que les Chartreux étaient venus se réfugier, donc, à Toulouse au moment des guerres de religion, et comme c'est un ordre fermé normalement, il y avait une partie du cloître qui leur était réservée, mais pour remercier les habitants de Toulouse de les avoir accueillis, l'autre partie était ouverte au public,
voilà,
aux messes,
voilà.
Donc, cet orgue est d'une beauté vraiment,
alors juste, beauté
il baignait dans la lumière d'automne là,
voilà,
à travers les vitraux, c'était
oui, c'est vrai,
magnifique.
C'est vrai. Alors il faut quand même redire avant de terminer que Yasuko, non seulement grande organiste, mais elle est aussi grande claveciniste et extraordinaire pianofortiste.
Oui, c'est une grande enseignante aussi.
Ah oui, aussi.
Grande
également.
Enseignante.
Très discrète, un petit peu.
Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais qui s'exprime.
Discrète dans la vie, qu'elle est talentueuse lorsqu'elle est devant ses claviers.
Ah oui, oui, oui.
Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que Michel Bouvard aussi a joué des clochettes.
Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement.
Il a joué des clochettes. Il en manquait des clochettes.
Il avait un petit carillon,
oui,
et dans lequel manquaient certaines clochettes. Alors, bon, il y avait des notes qu'il ne pouvait pas donner. Donc, il nous en a parlé un peu après.
Oui, c'était le côté un peu amusant de ce concert, et avec une salle qui est encore pleine, et archi pleine.
Absolument.
Ce festival, cette année, vraiment rassemble, fait courir les foules. Donc, Yasuko Bouvard a interprété une dizaine de pièces différentes samedi dernier à Saint-Pierre-des-Chartreux avec les musiciens qu'elle avait invités. Parmi celles-ci, il y avait A Fancy, une fantaisie, composée par le gallois Thomas Tomkins, qu'elle a joué à quatre mains avec son mari Michel Bouvard. On va les écouter tous les deux dans une interprétation de cette même pièce.
Thank you.
A Fancy de Thomas Tomkins, joué à quatre mains par Yasuko et Michel Bouvard, un enregistrement réalisé lors d'un concert sur le grand orgue de Rocamadour. C'était une des pièces au programme du concert donné par Yasuko Bouvard et ses amis à l'église Saint-Pierre des Chartreux samedi dernier, dans le cadre du festival Toulouse des Orgues. Et il y avait eu la veille un autre temps fort du festival 2019, le concerto pour orgue, orchestre à cordes et timbales de Francis Poulenc, donné à la Lograin par l'organiste Jean-Baptiste Monod, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, dirigé pour l'occasion par le jeune chef allemand Clemens Schulte. Ce n'était bien sûr pas la seule œuvre au programme, et pour avoir plus de détails, je vais me tourner vers Anne-Marie Chouchan et Serge Krichevski. L'une y a assisté, l'autre était dans l'orchestre. Anne-Marie, dites-nous un peu quelles autres œuvres ont été jouées ce soir-là.
Le concert s'est ouvert par une œuvre de Paul Dukas qu'on ne connaît pas, qui est une ouverture de Paul Yeuck. Et ensuite, il s'est terminé par la 4e symphonie de Johannes Brahms, qui est une œuvre superbe et qu'on a toujours envie de réentendre, surtout qu'elle était ce soir-là, je crois, bien dirigée et jouée par l'Orchestre du Capitole. Et au milieu, il y avait ce concerto pour orchestre de Poulenc, que l'on n'entend pas très souvent aussi, et cette fois-ci, c'était avec un orgue qui était sur la scène, un orgue de voyage. Donc l'orgue était à la Lograin cette fois-ci. C'est pas la première fois d'ailleurs, je crois. Il y a eu déjà des orgues non portatifs à la Lograin.
Alors celui-ci, il est quand même très particulier parce que les jeux sont posés sur des modules vraiment qu'on peut déplacer. Hein, et le but est de pouvoir se transporter avec son orgue, et ce qui est difficile à concevoir. Mais enfin, quand on a vu ce que Jean-Baptiste Monod a conçu, c'est...
Mais il s'agit bien d'un orgue avec des tuyaux.
Ah oui, absolument.
C'est pas un orgue électronique.
Non, il y a une soufflerie et les tuyaux passent d'un module à l'autre. Et je pense qu'il y a une étanchéité qui est faite. Et puis les jeux sont chacun sur un module à roulette qui est sorti d'une camionnette. Enfin, Jean-Baptiste Monod a pris un petit moment à le monter, à le sortir.
Puis à démonter après.
Voilà.
Ce concerto pour orgue et orchestre à cordes et timbales de Francis Poulenc, est-ce que c'était la première fois que vous l'entendiez l'un et l'autre?
Ah non, c'est pas la première fois, puisqu'il a été assez souvent joué. Et parfois, ça a été donc en duplex avec un orgue à la cathédrale Saint-Étienne, c'est ça?
Voilà, il y a eu la version avec, on en parlait à l'instant, Michel Bouvard, en duo avec fibre optique obligée depuis la cathédrale Saint-Étienne. Et Kazuki Yamadan, il y avait peut-être moins de décalage que vendredi dernier, je ne sais pas. Mais c'était impressionnant, la version avec la fibre optique, mais là, c'était complètement différent. Alors, ce concerto, effectivement, assez souvent joué, c'est une œuvre magnifique qui date de l'époque où Poulenc a eu ces illuminations à Rocamadour, avec l'Italie, etc., toute cette période déjà où il commence à écrire de la musique religieuse, souvent a cappella, pour chœur. Il sera redonné, pour ceux qui l'adorent, à la cathédrale de Condon le 20 octobre, avec Emmanuel Pellapra comme organiste. Mais c'est une œuvre, qu'on aime beaucoup, les musiciens. Alors, il n'y a pas de hautbois. Hein. Moi, j'étais donc sur le côté. J'ai apprécié, mais pas autant qu'Anne-Marie, qui était plus frontalement assise. Moi, j'étais sur les côtés pour me précipiter sur mon hautbois pour jouer la 4e de Brahms après, mais...
Je trouve qu'il y avait un bel équilibre entre l'instrument soliste et l'orchestre que le chef a su maintenir.
C'est vrai que c'est une œuvre qui pose toujours, alors elle a été créée par Durufflet à Gavot, qui pose toujours le problème de l'ambiance. Hein. Alors c'est une œuvre profane, mais qui en même temps avec un instrument qui est plutôt liturgique. Donc si c'est joué dans une église, il faut un orgue pas trop imposant non plus, dans une église qui ne réverbère pas trop. Alors les solutions, c'est de les jouer, dans des salles de concert quand c'est possible.
Bon, en tout cas, si je comprends bien, vous avez passé un bon moment tous les deux à l'écouter, et puis après avec la 4e de Brahms aussi, bien sûr.
Oui, la 4e de Brahms, qui est une œuvre que j'adore. C'est vrai, j'adore les symphonies de Brahms. Tout le monde n'est pas du même avis. Personnellement, ce sont des œuvres que j'aime, puisque c'est une synthèse entre la grande forme symphonique et puis quelque chose de plus profond qu'il y a dans ces symphonies, qui n'est pas simplement académique. Je trouve qu'il y a de très belles choses, aussi bien pour entendre les cordes d'un orchestre que les solistes. C'est une œuvre très très belle, la 4e.
Alors là, l'ouverture de Paul Yeuck est aussi à signaler, parce qu'on l'entendra pas souvent, et on l'entendra pas souvent. Par contre, le petit clin d'œil au Festival d'Orgue, c'est que la symphonie 4 de Brahms se termine par une passacaille, qui est une forme quand même qui a particulièrement été pratiquée par les organistes, les compositeurs de musique d'orgue, qui est vraiment le mouvement qui clôt le cycle des 4 symphonies de façon splendide, majestueuse, et voilà. En tant que musicien, on ne se lasse jamais de jouer cette musique.
Ce jeune chef allemand, là, Clemens Schulz, c'était une première pour lui à la direction.
Seconde,
vous l'avez, déjà vu.
Il a fait l'Héroïque il y a quelques
il y a deux ans,
je crois.
L'Héroïque, oui. Je rappelle que Michel Plasson avait fait un cycle Brahms il y a déjà, je sais pas, 30 ans ou je sais pas plus, et que le public découvrait un petit peu cet univers, parce que à l'époque on n'était pas tellement, tellement en France férus.
Porté sur la musique de Brahms. Oui. Effectivement, les choses ont bien changé, et heureusement d'ailleurs. On va terminer cette première partie d'émission là-dessus. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour parler du programme du premier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Restez bien à notre écoute. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, Serge Krichevski, oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre En Harmonie, président du Festival Musique au Palais et vice-président des Clés de Saint-Pierre, et puis donc avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Le premier concert de la 20e saison des Clés va être donné lundi prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines, bien sûr. Et puisqu'on a le vice-président des Clés de Saint-Pierre dans cette émission, on va en profiter pour lui demander comment cette 20e édition va être célébrée, parce que presque 20 ans, ça se fête évidemment. Est-ce que ce millésime 2019-2020 a quelque chose de particulier par rapport aux autres ? Alors, il y a quelque chose qui peut d'ores et déjà attirer notre attention, c'est qu'il y a une récitante pour le premier concert de la saison lundi.
Voilà, il y a une récitante, donc en la personne de Dominique Bru, qui est une comédienne donc, que les Toulousains connaissent, qui a fait plusieurs mises en scène également, et je crois qu'elle était proche de René Gouzène.
Elle a commencé effectivement avec René Gouzène. Elle est passée auparavant par le Conservatoire de Toulouse. Elle a été la Camille Claudel de Jean-Pierre Armand pour une composition extraordinaire. C'est une excellente comédienne, je peux le confirmer, j'ai vu plusieurs fois sur scène, et je pense que ce sera une très bonne lectrice aussi.
Voilà, donc l'idée est de mettre en regard immédiat hein, l'ambiance comme ça littéraire dans laquelle Robert et Clara Schumann ont vécu, et de la même manière, enfin un tout petit peu différente, de citer des écrits ou des réflexions ou des lettres d'Ernest Chausson, qui est le second des compositeurs mis à l'honneur dans ce concert. Alors effectivement, les concerts suivants seront également un petit peu exceptionnels, en ce sens qu'ils vont associer aux musiciens qui sont les musiciens de l'Orchestre du Capitole pour la plupart d'entre eux, un art associé donc pour faire honneur à cette 20e saison, puisque effectivement le premier concert a eu lieu en novembre 2000, donc on va rentrer en 2020 dans la 20e année de programmation. Le concert suivant sera...
C'est la danse qui sera associée à la musique.
C'est la danse qui sera associée au Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg, une œuvre qui est effectivement très très singulière et très emblématique de l'avant-première guerre mondiale, hein, juste avant, une œuvre de 1912, très riche sur le plan des nouveautés quand même d'écriture, même s'il y a encore beaucoup de liens avec le passé, hein, écrite sur des poèmes, curieusement, alors d'un auteur belge traduit en allemand, donc... apparemment, si j'ai bien compris, qui sera interprété dans une version retraduite en français, associée à une œuvre de Toru Takemitsu, donc avec des musiciens de l'Orchestre du Capitole, avec la voix pour le parler-chanter de Victoire Bunel, qui commence à être connue maintenant un petit peu à Toulouse, qui va être entendue également à d'autres moments, et à l'occasion des dialogues des Carmélites dans la soirée Poulenc. Donc Elsa Markelinhardt s'occupera de la dimension scénographie et danse. Le concert du 20 janvier est très très intéressant également, puisque sous le titre Couleur d'exil et avec le fond donc des peintures d'une collègue en fait, qui nous a avoué être peintre, donc qui est une collègue violoniste, nous aurons quatre musiciens de l'Orchestre du Capitole qui vont interpréter des quatuors à cordes de Korngold, Hindemith, Martinou, Mio. C'est-à-dire que ce sera probablement des premières auditions à Toulouse, très très certainement pour la plupart. Des compositeurs, effectivement, qui ont tous eu à affronter l'épreuve de l'exil et qui ont reflété un petit peu dans leur musique leurs sentiments, leurs sensations, leurs états d'âme. Le quatrième concert, donc, sera un concert au niveau des œuvres un tout petit peu plus classique, c'est-à-dire que même si on est ravi d'avoir enfin du Janáček, un compositeur qui a écrit des magnifiques opéras, mais aussi quelques très belles œuvres de musique de chambre, c'est la première fois qu'il sera interprété aux Clés de Saint-Pierre, donc on aura le premier quatuor, et le numéro 4 de l'opus 18 de Beethoven, avec deux courtes pièces de Shostakovich, avec donc comme fond, en l'occurrence artistique, donc différent. Ce seront des ombres chinoises, qui seront projetées par deux personnes, donc Roshana Krochan et Christophe Bastien-Thierry. Le dernier concert sera enfin, j'ai envie de dire, puisqu'il y avait déjà quand même une flûte, une clarinette pour le Pierrot Lunaire, un concert avec des instruments avant, donc concert de clôture le 27 avril 2020, quintette avant associée à Sandrine Foller, qui est donc peintre et dessinatrice, avec également Jonas Lopez comme vidéaste. Donc il y aura des œuvres aussi, plutôt du XXe siècle, hein, Malcolm Arnold, Luciano Berio, Samuel Barber et Ligeti, Gheorghi Ligeti, dans un programme de grand programme de quintette avant.
Et Sandrine Foller peindra en direct, vraiment pendant le concert, en s'inspirant des sons, des musiques qu'elle entendra. On aura l'occasion évidemment de reparler de tous ces concerts au cours de la saison. On va quand même commencer par le début, et donc ce premier concert de la saison, ce lundi 14 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Qui sont les musiciens qui vont intervenir et quel programme précis ont-ils préparé pour ouvrir cette saison ?
Alors donc le versant Schumann, Robert Clara Schumann, donc sera représenté par le troisième quatuor à cordes, magnifique quatuor à cordes en la majeure, donc de la série écrite de façon très resserrée, donc des trois de l'opus 41. Et donc la seconde partie sera le concert, magnifique concert de Chausson pour piano, violon et quatuor à cordes. Alors le quatuor à cordes est constitué de Laura Jaillet, Alexandre Albigot au violon, Laura Ensminger à l'alto et Aurore Dassès au violoncelle. Les deux solistes du concert seront Christy Giesi, qui est notre violon super soliste, charmant collègue au demeurant, et Philippe Montferrand, qu'on connaît bien et qui nous accompagne depuis la première saison des Clés de Saint-Pierre.
Oui, on a souvent entendu
il
au clair.
Absolument, il avait fait déjà une truite et un Mozart mémorable.
Très très beau pianiste. Alors on va écouter tout de suite une des œuvres qui sera jouée lundi. Je propose qu'on écoute d'abord le quatuor à cordes numéro 3, opus 41 de Robert Schumann. Il s'agit du quatrième mouvement Allegro molto vivace. Le quatrième mouvement Allegro molto vivace du quatuor à cordes numéro 3 opus 41 de Robert Schumann, une version interprétée par le quatuor Ebène. Robert Penaver voulait poser une question à Serge Krzyzewski concernant les problèmes que pouvait poser éventuellement musicien le fait d'avoir un autre artiste à côté d'eux qui s'adonnait à sa discipline propre.
Alors, j'avoue, mais je l'ai dit à ce micro il y a une semaine, avoir été profondément énervé par, lors des représentations de la Norma, par l'intervention d'un barde qui a récité un poème sur l'ouverture de la Norma, sur la musique. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'impensable, mais peut-être c'est pensable. La preuve,
ça dérangeait beaucoup de gens,
ça se fait. Voilà. Alors, donc, Serge, la question que je voulais vous poser, c'est quel est l'effet sur votre interprétation de voir autour de vous évoluer un danseur, d'évoluer un tableau de peinture, d'entendre un texte parler, non pas là sur la musique, mais à côté de la musique, j'ai bien compris, c'était quand même fait un peu plus adroitement que pour la Norma. Ça vous gêne, oui, ça vous gêne pas ça...
Quand intervient la récitante, c'est entre les mouvements des quatuors et du concert de
Alors, ce sera différent pour Schumann et Chausson, d'après ce que j'ai compris. Donc, il y aura de toute façon un... quand même une lecture liminaire à chaque œuvre. Et pour Schumann, il y aura une petite lecture un peu plus courte entre les mouvements, ce qui ne sera pas le cas pour Chausson. Alors, j'ai envie de dire que, de toute façon, cette idée d'un artiste associé fait partie de chacun des projets. Et comme c'est un petit peu le plaisir de la musique de chambre, ce sont des artistes qui ont été choisis. Ce choix s'est fait, donc les musiciens avaient dans leur entourage une connaissance, une personne qu'ils connaissaient bien, dont ils connaissaient le travail, qu'ils ont voulu associer à leur interprétation musicale. Donc évidemment, la préparation musicale est faite d'un côté, très sérieusement, comme pour un concert de présentation classique, et il est évident que même au moment du concert, il va se passer des choses que les musiciens ne peuvent pas prévoir. Mais il y a forcément une interaction, un petit bouleversement provoqué, on va dire, par la présence d'un corps étranger à la musique. Mais en même temps, c'est fait dans un esprit convivial, un esprit vraiment de plaisir, d'association de César. Alors ça n'est pas une dynamique qui devrait perdurer dans les saisons qui suivront, hein, mais cette saison a été vraiment décidée dans cette ligne-là.
On va écouter maintenant un extrait du concert pour piano, violon et quatuor à cordes opus 21 d'Ernest Chausson, le deuxième mouvement intitulé Sicilienne. Sicilienne, le très beau deuxième mouvement du concert pour piano, violon et quatuor à cordes opus 21 d'Ernest Chausson, un compositeur mort beaucoup trop tôt à l'âge de 44 ans à la suite d'une malencontreuse chute de vélo. Serge Krzyzewski, comment vous définiriez la musique de Chausson qu'on dit très trop influencée par celle de Wagner ?
Ah ben alors l'extrait que vous venez de faire entendre, Eric, démontrerait plutôt le contraire.
Mais il s'en défendait, lui, hein, Chausson. Hein.
Alors, il faut dire que ça dépend de quel Chausson on parle, si c'est du droit ou du gauche, si j'ose dire. Non, en fait, il y a un Chausson, clairement, qui regarde du côté de Paul Lieuckte, de Paul Dukas, c'est-à-dire, effectivement, Chausson, comme Debussy, d'ailleurs, hein, a commencé par faire partie des plus grands wagnériens français, et il s'en est éloigné, il a trouvé sa personnalité. C'est effectivement très dommage qu'il soit mort assez jeune, très jeune, hein, d'une façon un petit peu idiote, mais il aurait pu certainement écrire des œuvres très très personnelles, très fines, et qui seraient allées dans le sens de peut-être, effectivement, hein, un art un peu entre Debussy et Fauré. Il y a des choses... mais il a une couleur. Alors, le poème pour violon, le poème de l'amour et de la mer, toutes ces œuvres-là, on ne peut pas dire qu'elles évoquent Wagner. La Sicilienne, alors il y a des œuvres, effectivement, comme le roi Artus, la symphonie en mi bémol, qu'on a joué beaucoup avec Michel Plasson. Voilà, il y a des moments qui peuvent évoquer Wagner. Il faut vraiment, si on écoute surtout les dernières années de Chausson, enfin le moment où sa personnalité commence vraiment à s'affirmer, il est déjà loin de Wagner.
Oui, il disait lui-même, quelques années avant sa mort, il faut dévagnériser. Donc,
il y a réussi mieux que d'autres.
Oui, tout à fait. Alors donc pour Schumann, ce sont des lettres de Robert à Clara Schumann qui vont être lues. Chausson, de quel genre de lettres s'agit-il ?
Alors,
à qui s'adresse-t-elle ?
Alors, je pense qu'il y a probablement des lettres à son épouse et puis des écrits personnels. Je crois qu'il y a un journal aussi.
Un journal, oui.
Voilà, voilà. Ce sont des écrits qui ont été recueillis par Jean Gallois récemment, donc dans un livre...
Voilà donc pour cet aperçu du programme du concert lecture de ce lundi 14 octobre à Saint-Pierre-des-Cuisines, le premier de la saison, de la 20e saison des Clés de Saint-Pierre, avec Dominique Bru en récitante. Avant de terminer cette émission, je vais redonner quelques instants la parole à Robert Pénavert pour qu'il nous présente le premier opéra de la saison retransmis en direct du Met de New York dans les cinémas Gaumont, le Gaumont Wilson et le Gaumont Labège en nos contrées. Il s'agit de Turandot et la retransmission a lieu samedi 12 octobre à 18h55. C'est bien ça, Robert ?
Oui, tout à fait. Turandot pour ouvrir une saison lyrique de retransmission d'opéra en direct, il faut bien le préciser. Ben, c'est une œuvre évidemment qui va attirer certainement les foules. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de place, il doit en rester quelques-unes, mais pas beaucoup. Alors d'autant que cette représentation nous redonne, mais pourquoi pas, dans la production très naturaliste de Franco Zeffirelli. Et c'est vrai qu'on ne se lasse pas de regarder cette production qui est couverte d'or, d'éventails, etc. Mais pourquoi pas, c'est la Chine des empereurs, la Chine millénaire. Bon voilà, alors au Capitole, on a eu l'option entrepôt Amazon.com, bon, qui était un peu différente. Un peu...
On va pas reparler de ça.
Déboussolante, bon. Pourquoi
pas de publicité, s'il vous plaît.
Pourquoi pas, mais enfin, mon choix personnel est vite fait parce qu'il y a un hiatus avec la musique qui est énorme. Quoi. Voilà, bon. Alors, avec Zeffirelli, on sait parfaitement où on pose les pieds. Ça, au moins, on est jamais étonné, mais on n'est jamais déçu. Et donc, Peter Jepp, le patron du Metropolitan, le sait, parce que c'est lui qui a... Enfin, c'est pas lui à cette époque-là, mais c'est le Metropolitan qui est propriétaire de cette production depuis 32 ans. Et il la donne tous les deux ans à peu près. Et tous les deux ans, ils font ça le comble, alors qu'il y a, je crois, 25 représentations à la file l'une de l'autre, avec plusieurs distributions. Alors, la nôtre, celle qui nous concerne le 12 octobre, alors d'abord, un point très fort, c'est que c'est dirigé par Yannick Nézet-Seguin.
Oui. Le nouveau directeur musical,
le nouveau directeur musical du Metropolitan, ce qui n'est pas rien. Avoir dans la fosse Nézet-Seguin, c'est toujours un bonheur incroyable, d'autant plus incroyable au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'on a mal à le croire parce qu'il peut diriger n'importe quoi, il le fait toujours aussi bien.
Oui, c'est vrai.
Et puis avec une attention au plateau, au cœur, enfin, c'est vraiment un chef extraordinaire. Je crois que nous sommes nombreux autour de cette table à l'apprécier puisqu'on l'a eu.
Oui, il est venu assez souvent en
tout jeune. Genre, tout jeune.
Oui. Mais encore récemment, il est venu diriger l'Orchestre de Chambre d'Europe, je crois, c'était,
oui,
me semble-t-il,
oui.
Dans la saison des grands interprètes, pas la dernière, mais celle d'avant.
Alors, autre bonheur, une distribution. Alors, évidemment, c'est des distributions métropolitaines.
Oui.
Voilà.
Bon. Ah, ben, ils ont des moyens.
Bon, je dois dire qu'il n'y a pas grand-chose à redire. La princesse, c'est Christine Görke, une américaine. Et alors, elle, son répertoire, c'est simple. C'est Brunhilde, Isolde, Electra, Turandot. Et après, Brunhilde, Isolde, Electra, Turandot.
Bon, c'est bien marqué.
Et après, éventuellement,
et bien délimité.
Brunhilde, Isolde, Electra, Turandot. Voilà.
À chaque fois, dans des langues différentes.
Mais pas dans le même ordre. C'est ça qui
change. C'est stupéfiant. Elle a une technique mais d'enfer. Cette cantatrice qui est au sommet de sa carrière, bon, elle a 50 ans aujourd'hui et elle continue sur la lancée, que ce soit Vienne, le Metropolitan, la Scala, bon, et elle le fait évidemment éminemment bien. Alors, la Saliu, c'est une Italienne dont le rôle signature c'est Mimi. En fait, c'est normal, c'est la voix de Mimi, c'est la voix de Liu. Hein. C'est Eleonora Burrato. Elle est quand même un poil plus jeune, elle a 37 ans. Alors, changement de distribution pour le rôle de Calaf, c'était Roberto Aronica qui était annoncé de longue date. Et en fait, on va avoir, comme nous disions, c'est Eric qui disait ça.
Monsieur Netrebko,
qui remplace Roberto Aronica, donc Youssef Eyvazov.
Bon, je dis Monsieur Netrebko pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que c'est l'époux de qui vous savez.
Voilà, Dana Netrebko depuis le mois de décembre 2015 pour la partie People de l'information. Et bon, et c'est vrai qu'il faut reconnaître que depuis 2015, sa carrière a pris une autre tournure.
Hasard.
Voilà. Donc, l'un est certainement étranger à l'autre, mais bon, ben c'est comme ça. Voilà. Et donc, c'est lui qui fait le prince Calaf. Alors,
voilà.
Youssef Eyvazov, c'est très clairement un ténor dramatique. Chante Othello, il chante. Il a la voix, incontestablement.
Oui, oui, oui.
Il a la voix. Peut-être pas le physique d'un jeune premier, mais il a la voix.
Nous arrêtons pas ce genre de considération.
Mais elle est là pour lui.
Sauf que là, elle n'y est pas.
Non, pour l'instant, elle n'a pas abordé Turandot, Anna de Trepko, comme elle a reculé devant Norma, pour l'instant Turandot, bon. Et alors nous avons dans le rôle de Timour, ça va vous rappeler certainement des souvenirs, mais le dernier grand Votan que nous avons eu à Toulouse, c'est James Morris.
James Morris, oui.
Bon, et c'est clair, aujourd'hui il a 72 ans, donc il vit à New York. Et donc, il chante qu'au Métropolitain de New York.
Voilà, il traverse la rue et il va chanter.
Il traverse la rue et il est en face du Lincoln Center. Et donc, il va chanter des seconds rôles maintenant. Et j'imagine qu'il le fait très bien. Alors, il chante Don Fernando dans Fidelio. Il est toujours sur scène.
Alors, il y a une particularité, c'est qu'il va y avoir une présentation de l'opéra, une conférence avant la diffusion.
Voilà, c'est la perche, la Eric.
Oui, ouais, mais attrapez-la.
Je l'attrape. Bon. Alors, effectivement, vous savez, il y a 3 ans, Le Gaumont avait lancé un cycle de conférences préparatoires à ses représentations, 1 heure avant le spectacle. Voilà, c'est une série de conférences que j'avais le plaisir d'animer et que, après, pour des problèmes techniques, ils ont été obligés d'arrêter et ils reprennent cette année. Donc, 1 heure avant, c'est-à-dire à 18h, j'aurai le plaisir, on reçoit le public, j'aborde évidemment le compositeur, l'époque de la création, je parle des chanteurs qui vont l'interpréter, des difficultés évidemment auxquelles il faut s'attendre, je parle du livret également, je parle de manière générique, de thèmes qui permettent aux spectateurs qui ne sont pas habitués, et très souvent au Gaumont, ou au cinéma, on a affaire à ce type de public qui va voir l'opéra là, d'abord pour une raison qui paraît peut-être un peu triviale, mais qui ne l'est pas du tout. C'est une question de prix.
Oui, oui.
Puisque donc, si vous prenez l'abonnement, c'est 25 euros. Et moi, je comprends ça parfaitement.
C'est au Gaumont Wilson.
La Bêche et Wilson.
Oui, La Bêche.
Merci Anne-Marie.
Oui, vous ne pouvez pas vous dédoubler.
Non, je ne peux pas. Alors, il peut être envisagé dans le futur de faire de la transmission télévisuelle, mais pour l'instant,
vous allez dire transmission
pensée. Et donc, ce n'est qu'à La Bêche.
Voilà. D'accord, donc c'est à La Bêche pour ceux qui veulent profiter de la conférence. On ne va pas se priver d'écouter l'un des airs les plus célèbres de Turandot, Nessun Dorma, chanté ici par celui qui va interpréter Calaf dans la production du Met, M. Youssif Eyvazov. Nessun Dorma, chanté par le ténor azerbaïdjanais Youssif Eyvazov, qui sera calave dans la production de Turandot, l'opéra de Giacomo Puccini, retransmis en direct du Met dans les cinémas Gaumont-Wilson et Gaumont-la-Bèche, samedi 12 octobre à 18h55. Nous devons maintenant conclure ce numéro de Mélomanie. Un grand merci à Serge Ozy, Serge Krichewski et Robert Pénavert de l'avoir co-animé à mes côtés, ainsi qu'à Anne-Marie Chouchan, bien entendu. Je rappelle que Correspondance et Lettres Intimes, le premier concert de la 20e saison des Clés de Saint-Pierre, a lieu ce lundi 14 octobre à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. La musique de Robert Schumann et Ernest Chausson et des lettres des deux compositeurs lues par la comédienne Dominique Bruce, ça va être très beau. Donc je vous invite à réserver vos places dès maintenant sur le site des Clés, www.lesclésdesaintpierre.org. Je signale aussi le concert de l'orchestre en harmonie cérémonie dirigée par Serge Krichevski ici présent. C'est à la salle des fêtes de Seyss le 13 octobre à 17h. Au programme, il y a la symphonie concertant pour violon et alto et la symphonie numéro 39 de Mozart. Ensuite, je rappelle que pour assister à la retransmission de Turandot en direct du Met de New York dans les cinémas Gaumont-Wilson et Gaumont-Labège, samedi 12 octobre à 18h55 donc, vous pouvez réserver vos places sur le site www.cinemapathegaumont.com.
Et en plus, depuis aujourd'hui, on peut revenir les acheter aux caisses.
Encore mieux. Je signale aussi le concert du duo Magdalena Kozena, Simon Rattle, c'est mercredi 16 octobre à 20h à l'Allograin avec un programme de mélodies et d'airs de Chausson, Stravinsky, Ravel, Strauss, Brahms, Janáček et Dvorak dans le cadre de la saison des grands interprètes. Réservation sur le site www.grandsinterprètes.com. Puis je rappelle que le festival Toulouse des Orgues se termine ce week-end avec entre autres la nuit de l'orgue samedi à partir de 20h30 à la basilique Saint-Sernin et le concert de clôture dimanche à 18h à la cathédrale Saint-Étienne avec l'organiste Thierry Esquèche et le quatuor de saxophone Ellipsos. Renseignements et réservations sur le site www.toulouse-les-orgues.org. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission dont les podcasts sont disponibles et téléchargeables dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles et très bonne semaine musicale à tous.